Philippe Goldstein, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes professeur à l'ULB, université qui fait depuis quelques semaines la une des journaux belges dans le contexte des manifestations pro-palestiniennes qui enflamment le campus depuis, je dirais, début mai, enfin ce printemps en tout cas. Et vous êtes également le co-signataire d'une carte blanche publiée dans La Libre il y a quelques jours qui déplore la décision de l'ULB de suspendre les accords et projets institutionnels de recherche avec les universités israéliennes et palestiniennes. Donc pour commencer, avant de nous expliquer les motivations qui vous ont poussé à vous exprimer publiquement, pourriez-vous vous présenter brièvement?
Bien écoutez, je suis médecin gastro-entérologue depuis 1991. Je suis professeur de physiologie et de physiopathologie à la faculté de médecine, où j'enseigne maintenant depuis 15 ans, étant titulaire de plusieurs. Et j'ai été formé dans un milieu non religieux. J'ai suivi un parcours scolaire non confessionnel, tant à l'école primaire que secondaire. Et j'ai donc poursuivi mes études en m'inscrivant à la faculté de médecine de l'ULB, où j'ai été formé, effectué ma spécialisation et obtenu ma thèse de doctorat. Et cette inscription à l'ULB était naturelle, l'ULB étant une université laïque fondée sur le libre examen, qui fait d'ailleurs l'objet de l'article 1 de ses statuts organiques, le libre examen. Mon père était diplômé de l'ULB. Au moment de mon inscription, il était professeur à l'école polytechnique et de commerce Solvay, dont il avait d'ailleurs été président. D'autres membres de ma famille et de la génération de mes parents étaient également diplômés de l'ULB. Ma génération est également diplômée de l'ULB, ma sœur, mes cousins, ma femme. Mes enfants et donc la génération qui me suit, mes neveux, mes petits cousins, bref, nous avons depuis trois générations un lien, une tradition de duelbit, si vous voulez. Et donc, je suis un fervent défenseur du libre examen, qui m'a notamment appris à être très attaché aux faits et aux éléments objectifs et à la laïcité. J'ajoute que je ne suis membre d'aucun parti politique et que je m'exprime ici à titre privé.
Alors, du coup, justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer les motifs qui vous ont amené à vous mobiliser? Je veux dire, vous avez déjà introduit un peu, c'est une histoire de tradition avec l'ULB, une sorte. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus les motifs?
Écoutez, depuis le 7 octobre, il est devenu indispensable de se mobiliser contre toutes les dérives de l'importation du conflit du Proche-Orient, qui, je le rappelle quand même, se déroule à près de 3 500 km de chez nous, en ligne directe, sauf si vous prenez des parcours un peu plus longs, et qui impacte sévèrement notre société, et en particulier la communauté juive, mais également l'université où je sais. Ne pas le faire aurait été une attitude de complaisance ou de complicité que je considère, pour ma part, inacceptable. L'importation de ce conflit a joué un rôle d'un véritable catalyseur. Ce n'a pas réellement créé de nouveaux problèmes, mais les a révélés au grand jour. Et ce sont des problèmes de fond qui étaient présents et latents auparavant. Alors, cette mobilisation est d'autant plus nécessaire que l'Université libre de Bruxelles, en tout cas ses autorités, ont choisi d'adopter depuis un certain temps une attitude qu'on va qualifier de mi-chèvre, mi-chou, une attitude du en même temps, qui n'est pas à la hauteur des enjeux et qui la place régulièrement dans des positions contradictoires. Il faut bien savoir qu'avant le 7 octobre, nous avons été, et nous sommes d'ailleurs toujours confrontés à l'atteinte insidieuse à la laïcité par ce communautarisme religieux musulman, et la présence de lieux de prière clandestins au niveau de l'université. On a eu des articles dans les journaux en août-septembre 2023 et encore récemment en mars 2024. Et donc, dans ce cas, les autorités ont indiqué clairement que ces lieux n'étaient pas tolérés, mais en même temps, n'ont rien fait pour les supprimer. Il y a toujours un lieu de prière clandestin actif sur le campus Erasme, que je ne cesse de dénoncer. Donc, cette attitude due en même temps a fait que la mobilisation était indispensable. Alors, il y a quatre axes importants qui sont liés et qui m'ont amené à me mobiliser. Alors, je vais peut-être les détailler, mais d'abord, la résurgence de l'antisémitisme qui a flambé, et en particulier sur les campus de l'ULB, que les autorités ont encore beaucoup de mal à reconnaître. Donc, c'est une lutte contre l'antisémitisme sans relâche. J'ai été le principal rédacteur de deux cartes blanches co-signées par différents collègues et publiées dans Le Vif en décembre 2023 et en mai 2024, et que les auditeurs pourront lire, qui a décrit un syndrome de déni d'antisémitisme dont certains sont malheureusement bien atteints à l'ULB, mais d'ailleurs comme dans d'autres milieux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a ce que je pourrais appeler le libre examen à géométrie variable. Au fond, la torsion du libre examen en fonction des circonstances. Je rappelle que le libre examen, c'est l'ADN de l'ULB, je l'ai dit tout à l'heure, figurant à l'article 1 de ses statuts organiques, et que le libre examen, c'est quoi? C'est la discussion critique, le débat contradictoire, mais respectueux et tolérant, le sens de la nuance, le refus des dogmes, la rigueur scientifique qui implique de vérifier ses sources, le refus de la violence dans des débats, pour faire valoir un point de vue. Et donc, pour être simple et résumé, le libre examen, ce n'est pas une liberté de dire n'importe quoi, n'importe comment, sur n'importe quel sujet ou sur n'importe qui, et on pourrait même ajouter n'importe où. Donc, il y a un cadre pour le libre examen. Et ne pas vouloir reconnaître clairement l'antisémitisme et avoir mis 7 mois, je parle de l'ULB, pour indiquer dans un communiqué l'adjectif antisémite, n'est pas dans la tradition du libre examen. Et on peut le voir également dans la gestion que je mets entre guillemets, la gestion de l'occupation du bâtiment B depuis le 7 mai, donc sur le campus du Solbosch. Les activistes pro-palestiniens qui sont, je vais brièvement indiquer les éléments qui sont profondément, comment dirais-je, à l'encontre du libre examen, ont quand même reçu de la part de la rectrice une oreille très attentive et qui a fait qu'elle a adopté une position qui est tout à fait contraire au libre examen. Ces activistes sont masqués et sont probablement pas des étudiants, sont violents, se sont d'ailleurs rendus coupables d'actes antisémites le 7 mai, certains. Ils refusent tout débat contradictoire, ont déversé des poubelles dans l'entrée du rectorat, font l'éloge et l'apologie du terrorisme armé, répètent inlassablement et ont inscrit en contrebas du bâtiment B, en très grand caractère, le slogan Free Palestine from the river to the sea, donc du fleuve à la mer, on se débarrasse de tous ceux qui y habitent. Ça n'a pas été effacé par l'université. Ils sont noyautés, infiltrés par une organisation extérieure qui est Samidoun, qui est liée au FPLP et qui manifeste une sympathie évidente pour le Hamas. Et donc, l'ULB a considéré que c'était des interlocuteurs dignes de discussion sur le thème du libre examen. Il faut ajouter que certains enseignants ont encouragé ouvertement cette radicalité de cette occupation et on est arrivé à une situation au fond surréaliste où l'université ayant décidé d'organiser un débat Israël-Palestine où va-t-on, a été obligé de l'organiser en dehors de l'ULB pour assurer la protection de cette manifestation à laquelle, tout le monde le sait, Elie Barnaby a été invité. Et Elie Barnaby, quand même pas un homme que l'on peut qualifier d'extrémisme quelconque. Et donc, il a été refusé par les activistes qui, lors de cette conférence où j'y étais, ont fait preuve d'une intolérance que je considère honteuse vis-à-vis de lui, en le présentant comme un suppôt du gouvernement israélien, enfin, la diatribe habituelle. Et donc, si il faut bien remettre les pendules à l'heure, c'est au niveau du libre examen. Alors, il y a un troisième point et qui fait l'objet de la carte blanche, qui est l'atteinte à la liberté académique. Cette carte blanche refuse également tout boycott scientifique. Et enfin, quatrième point, c'est la perte insidieuse de la laïcité qui est en train de se développer dans l'ensemble de la société, mais à l'ULB également. Donc voilà en gros les éléments qui m'ont amené à mobiliser. Ça a été un petit peu long, mais je pense que c'était nécessaire.
Et l'ULB a-t-elle réagi à cette carte blanche et quels étaient les arguments principaux avancés par l'institution de l'ULB pour justement justifier de ce comportement problématique selon vous?
Alors, commençons peut-être par l'inverse. C'est-à-dire, je vais prendre la fin de votre question au début. Il faut savoir que le conseil académique, qui est l'instance, en quelque sorte, dirigeante qui définit et exécute la politique académique et scientifique de l'institution pour que les auditeurs comprennent qui est le conseil académique. Donc, c'est une assemblée qui est élue au sein de l'université. Elle avait déjà suspendu de manière totalement absurde, lors de sa séance du 25 avril, les accords d'échange d'étudiants avec l'université de Tel Aviv. On se demande en quoi les étudiants sont concernés par ce qui se passe actuellement. Bref. Et donc la suspension des accords et des projets institutionnels de recherche est une étape supplémentaire dans cette voie. Et donc la carte blanche fait suite, par ailleurs, à une lettre ouverte qui avait été adressée à la rectrice, à laquelle j'avais également participé, qui a été signée par une cinquantaine d'académiques et qui avait donc été envoyée à la rectrice avant le conseil académique du 27 mai. Conseil académique qui a décidé cette suspension des accords et projets institutionnels de recherche avec les universités israéliennes, mais également palestiniennes. On peut y revenir et on y reviendra tout à l'heure. Cette lettre dénonçait les conditions d'occupation du bâtiment B par les activistes, demandait à la rectrice de restaurer de manière urgente la quiétude sur le campus du Solbosch et de répondre aux accusations d'antisémitisme pesant sur l'ULB et de préserver également la liberté académique. Donc tous les thèmes étaient là. Et elle demandait qu'elle mette fin à l'occupation illégale du bâtiment B et au boycott des universités israéliennes. Bref, tout était clair, ça n'a manifestement pas été entendu, et donc cette carte blanche vise à marquer notre refus du boycott scientifique des universités, mais évidemment des universitaires, et à marquer notre opposition à toute entrave à la liberté académique, puisque, on va y revenir, la décision du conseil académique est assez pernicieuse en disant qu'elle n'entravera pas la liberté académique individuelle. Mais je pense qu'on pourra en discuter un tout petit peu plus tard.
Alors, je poursuis. Quelles éventuelles en fait solutions voyez-vous, préconisez-vous pour dépasser, disons, ce clivage entre ces incompréhensions en fait entre l'université qui s'empare de domaines qui sont, d'après ce que je comprends de votre argumentaire, qui sont un peu en dehors de ses prérogatives finalement.
Mais peut-être pour être plus clair, c'est vous expliquer quelle est la position de l'université du conseil académique, mais donc de l'université dans son communiqué. Au fond, les autorités de l'université et un bon nombre de membres du conseil académique ont une vision très orientée du conflit actuel au Proche-Orient et qui n'est clairement pas pro-israélienne. Et certains ont même une position fermement anti-israélienne. Et donc, cette décision vise au fond à traduire cette position orientée dans le conflit. Et quand vous lisez le communiqué, il est intitulé « L'ULB suspend ses accords et projets de recherche avec les universités israéliennes, tout court », alors que le communiqué reprend que le conseil académique suspend également ses accords et projets de recherche avec des universités palestiniennes. Donc c'est déjà un premier point, c'est une façon d'orienter. Alors, il dit également aussi quelque chose d'intéressant, parce que je pense que c'est intéressant que les auditeurs entendent. Le conseil académique, je vais le lire, de l'Université libre de Bruxelles a décidé à une large majorité ce 27 mai 2024 de la suspension des accords et projets institutionnels de recherche impliquant une université israélienne. Il s'engage par ailleurs à ne pas conclure d'accord avec une université palestinienne. Et écoutez bien la suite. Jusqu'à l'engagement clair de leurs autorités universitaires respectives en faveur des exigences émises par la Cour internationale de justice dans son ordonnance du 24 mai 2024 et de la libération sans condition des otages israéliens, ou jusqu'au respect par les parties au conflit des conditions de l'ordonnance précitée et de la libération sans condition des otages israéliens. Termine. La décision du conseil académique ne fait en aucun cas obstacle, et là on y arrive, aux collaborations académiques et scientifiques individuelles avec des chercheurs des universités israéliennes et palestiniennes, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Sauf respect des conditions ci-dessus énoncées, aucun nouvel accord ou projet institutionnel avec les universités israéliennes et palestiniennes ne sera initié. Alors, les commentaires sont les suivants. Il s'agit donc d'une position qui se veut à la fois, en même temps, égalitaire, mais qui est fallacieuse, qui est par moments incohérente et finalement absurde. Je vous explique brièvement. Ça revient au fond à un boycott et à une atteinte indirecte à la liberté académique individuelle. conditionner la suspension des relations institutionnelles au respect par les universités israéliennes, notamment de l'ordonnance de la Cour de justice, mais c'est la Cour pénale du 24 mai 2024. Ça veut dire que on met d'abord sur le même pied les protagonistes de la guerre. Je vous le rappelle, il y a un gouvernement de droite et d'extrême droite auquel je n'adhère évidemment pas, mais qui a été élu démocratiquement. Et c'est d'ailleurs une des failles de la démocratie que de tout petit parti peuvent défaire ou refaire des coalitions d'un côté. Et de l'autre côté, j'appellerais même pas ça des terroristes, j'appelle ça des barbares. Terroriste est encore un terme faible, islamiste du Hamas. Donc déjà mettre les gens sur le même pied est une problématique. Elle met en plus dans le même panier toutes les universités et tous les universitaires israéliens qui sont considérés a priori comme étant des soutiens conditionnels du gouvernement de Netanyahou et les considérant comme ayant une lourde responsabilité dans le déroulement de la guerre. Absurdité totale. Elle demande ensuite aux universités de se conformer à cette ordonnance du 24 mai, dont le parti pris, comme je vous ai dit, est très contestable. Je l'ai lu. C'est une diatribe contre Israël. Le Hamas n'est même pas cité. Par ailleurs, les universités n'ont aucune influence sur cette ordonnance. Et aucune des parties ne se conformera à cette ordonnance. Ce qui veut dire que cette suspension n'est pas temporaire, mais de longue durée, et donc finalement est un réel boycott. Alors, les universités palestiniennes sont impactées également, et c'est une des contradictions, ce qui est assez absurde, puisque le conseil des recteurs et rectrices francophones avait encore déclaré le 19 mars qu'il soutiendrait la reconstruction d'un environnement scientifique et académique en Palestine. Donc, vouloir maintenant les boycotter est absurde. Et on arrive maintenant à la liberté académique individuelle, qui va être en fait cadenassée. Il faut vous imaginer que tout chercheur qui fera une demande de bourse en rapport avec un projet scientifique de collaboration avec une institution israélienne ou un scientifique israélien ne sera pas pris en considération. Mais dans ces conditions, le chercheur abandonnera ce type de collaboration. Et puis les chercheurs qui, sachant qu'ils ne sont pas soutenus par leur institution, éviteront de telles collaborations avec les milieux scientifiques israéliens pour ne pas avoir de problème dans leur carrière, s'assurer d'une harmonie dans leur promotion. Bref, on va avoir une liberté individuelle qui va être indirectement impactée et dire que ce n'est pas le cas n'est pas la réalité. Et puis j'ajoute que l'ULB entretient des relations institutionnelles avec des universités de pays non démocratiques comme la Chine, 27 universités chinoises, ou des pays où la démocratie doit encore faire de grands progrès. Et donc, si on voulait être cohérent, eh bien, il faudrait que l'université suspende ses relations avec toutes ces universités. Vous voyez donc que ça n'a pas un impact anodin et que ce communiqué me paraît extrêmement problématique. Alors, les conséquences que vous m'aviez demandé, quelles conséquences? Ben, à mon sens, des conséquences très problématiques parce que, un, ça n'améliorera pas la situation au Proche-Orient. Se couper volontairement des milieux scientifiques est une erreur, à mon sens, profonde d'évaluation, puisque ce sont précisément ces milieux-là qui sont les plus à même de porter le débat contradictoire et de manifester leur opposition aux politiques extrêmes. Les abandonner, parce que c'est de ça dont il s'agit, risquera au contraire de les affaiblir et d'aboutir à un effet totalement inverse à celui escompté. Alors, sur le plan purement scientifique, ce type de décision est catastrophique. Il faut savoir que la science est internationale, les collaborations sont internationales, elles sont incontournables, et il ne faut pas oublier que le niveau des universités israéliennes est particulièrement élevé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à terme, le boycott des universités israéliennes va encourager incontournablement l'antisémitisme, dans la mesure où un boycott comme celui-là légitime, au fond, l'exclusion, l'ostracisation de la communauté scientifique israélienne, par extension la communauté juive au sens large. Et on peut imaginer que sur un plan académique, il va se trouver des motifs pour que l'université puisse, entre guillemets, objectivement, écarter des professeurs juifs qui manifesteraient un soutien un petit peu trop appuyé à des scientifiques israéliens et donc, par extension, à Israël. Et puis, on pourra probablement penser aux étudiants ensuite. Et il faut savoir que tout ça n'est pas de l'utopie et de la paranoïa. À Lausanne, il y a un collectif d'étudiants pro-palestiniens qui publie le nom de professeurs qui sont liés à des institutions israéliennes. Et donc, il y a une véritable chasse aux sorcières. Donc, Pour résumer, en fin de compte, l'antisémitisme va malheureusement croître et ce type de décision y participe grandement.
Alors, pour finir, Philippe Goldstein, quelles éventuelles solutions voyez-vous à l'avenir?
Écoutez, deux éléments me paraissent importants et complémentaires. Je pense que tout doit passer par l'éducation et dès le départ, c'est-à-dire chez les tout-petits. Il faudrait qu'ils apprennent dès le plus jeune âge ce qu'est le libre examen, mais le vrai, celui dont je vous ai parlé, de la discussion critique, du débat contradictoire. Enfin, je ne vais pas reprendre tous les éléments, mais ça, c'est très important. Et deuxième chose, il faut que l'on préserve et qu'on renforce la laïcité de notre société. Il faut que le religieux soit séparé de la sphère publique. La religion est une affaire privée et doit le rester. Il faut combattre les incessantes et insidieuses incursions du religieux dans la sphère publique, alimentées par certains extrémistes qui sont par ailleurs très actifs et dont le but fallacieux est la transformation de notre société en une société religieuse. Les lois des hommes ne peuvent être supplantées par celles d'un Dieu. Et donc ces deux conditions, à mon sens, doivent être réunies si l'on veut préserver la démocratie. Et les pouvoirs d'ailleurs actuels ou les nouveaux politiques qui vont sévir doivent impérativement s'en rendre compte et en faire leur priorité. Ça va prendre du temps, ce ne sera pas facile, mais c'est un combat qui est juste et qu'il faut mener sans relâche.
Eh bien, Philippe Goldstein, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur à l'ULB, donc cette université qui est le théâtre de manifestations pro-palestiniennes depuis quelques semaines et que vous êtes également le co-signataire de cette carte blanche publiée dans La Libre il y a quelques jours, qui déplore la décision du rectorat de l'ULB de suspendre les accords et projets institutionnels de recherche avec les universités israéliennes et palestiniennes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Au revoir.